Rue de la Révolution est un podcast Fast-Kill, intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/fast-kill.
À Rue de la Révolution, on parle souvent de politique, c'est vrai. De politique monétaire, de politique économique, de politique publique. Comme si le changement ne pouvait venir que d'en haut. Mais le changement peut-il aussi venir de l'entreprise ? Aujourd'hui, à Rue de la Révolution, un épisode exceptionnel dans une brasserie à l'approche engagée avec son fondateur, Mathieu Le Seine. Un épisode à déguster sans modération. Vous êtes avec nous, Rue de la Révolution, avec celles et ceux qui la font. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de Rue de la Révolution. Bonjour Roland.
Salut.
Et bonjour à nos fidèles auditeurs. On excuse Nancy qui malheureusement n'a pas pu faire exceptionnellement le déplacement, mais on a vérifié, elle a un mot du médecin, elle est excusez. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, on vous avait promis dans l'épisode précédent, pour relancer après le break estival, donc cette saison 2, on vous avait promis des surprises. Voici une belle surprise aujourd'hui, puisqu'on a délocalisé nos studios. Nous sommes aujourd'hui à Merville, dans le nord de la France, donc région Hauts-de-France, et nous enregistrons au sein donc de la brasserie du Pays Flamand, avec l'un de ses co-fondateurs, Mathieu Le Seine. Donc on va parler un petit peu de bière, évidemment, et puis de cette démarche d'entreprise qui est représentée par la brasserie du Pays Flamand, et on va en parler donc avec le co-fondateur, Mathieu Le Seine. Mathieu Le Seine, bonjour.
Bonjour à tous.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez me dire, une émission sur la bière, qu'est-ce qui s'est passé à Rue de la Révolution ? Bon, alors, Roland, je pense qu'on a déjà trahi le secret dans des épisodes précédents, on adore la bière.
C'est pas faux.
Mais la justification, heureusement, ne s'arrête pas là, puisque, bien évidemment, en Rue de la Révolution, je le rappelle, mais vous le savez, on est là pour parler pendant une heure avec des personnalités engagées, qui font de la politique ou non, d'ailleurs, pour parler de leur rapport à la cause et de leur cause elle-même. Et Mathieu, c'est la raison qui nous a poussé à t'inviter aujourd'hui et à s'inviter finalement chez toi dans cette belle brasserie à Merville, puisque tu as une démarche engagée dans ton brassage de bière. Tu n'as pas commencé ta carrière non plus d'ailleurs par la brasserie, et donc on va revenir un petit peu sur cette démarche qui t'a amené et ce qui fait un petit peu la particularité de la brasserie du pays flamand. Donc Mathieu, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Peut-être qu'on va commencer par parler un peu de toi, hein. Okay. Et donc, comme je disais, on est ici dans ta brasserie à Merville. Donc la question, c'est voilà, où est-ce qu'on est ?
Bah écoute, tu es en Flandre, hein, à quelques mètres près, puisque en fait il y a la Lys qui coule derrière, donc c'est peut-être la frontière entre la Flandre et l'Artois. Mais tu es bien dans les Hauts-de-France, et en fait, bah on est du pays, puisque je suis originaire d'Hazebrouck avec mon associé Olivier, et il y a 12 ans, on a en fait changé de vie complètement. Et donc, vous êtes au cœur de la deuxième brasserie qu'on a construite, puisqu'en fait, on s'est installé à Blaringhem, non loin d'ici. Et face au succès, en fin de compte, on a pu construire une nouvelle brasserie. Et du coup, aujourd'hui, bah, on a deux brasseries. On a cette chance extraordinaire d'avoir deux lieux extraordinaires qui ont tous une histoire. Et bon, je pense qu'on va en parler un petit peu plus après.
Absolument. Et d'ailleurs, petit disclaimer, Roland et moi-même sommes aussi originaires d'Hazebrouck. C'est bien pour ça qu'on connaît la brasserie du Pays Flamand et sa bière fétiche qui est la Nosteke, et sans flatterie inutile, qui est clairement une de nos bières préférées. Donc, c'est pour ça aussi que ça nous fait très plaisir. On parlera évidemment de ce qu'il y a derrière la Nosteke et ce qui la rend aussi particulière, en plus d'être une très bonne bière.
Pas de problème.
Alors, avant la brasserie, donc tu nous as parlé effectivement de la région flamande, française, et donc du fait que tu es originaire d'Hazebrouck et que tu t'es lancé avec ton partenaire Olivier dans cette brasserie. Mais avant ça, tu avais déjà une carrière bien établie. Tu ne t'es pas lancé après l'école, après le lycée, directement dans la brasserie. Non. Alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Eh ben écoute, en fait, j'ai fait des hautes études, n'est-ce pas, dans la banque et la finance, quelque chose qui me passionnait puisqu'en fait j'avais l'impression de pouvoir contribuer justement à aider l'économie, à aider les entreprises, à les accompagner. Et donc j'ai fait ma carrière en fin de compte dans une banque nationale où là j'étais un petit peu perdu par rapport aux valeurs qu'elle représentait.
Excuse-moi, t'interromps, quand tu dis banque nationale, tu entends une banque publique ?
Non, une banque nationale, une banque de notoriété nationale, ouais, une grande banque nationale. Je la citerai pas parce que je vais pas lui faire de la bonne pub. mais bon. Et donc du coup, je me suis dit bon, allez, ça, c'est pas grave. C'est l'enseigne qui veut ça. On va essayer les réseaux mutualistes. Et puis là, globalement, j'étais confronté plus ou moins au même débat et au même. J'étais un petit peu déchiré entre ce que je devais faire et ce que, ma mission qui était d'aider les entreprises. Donc en fin de compte, j'ai voulu donner du sens à ma vie professionnelle et alignement des planètes oblige, mon associé et ami d'enfance, Olivier, avait les mêmes soucis alors sur un autre pan d'activité qui est la fermentation. Et du coup on s'est associé assez naturellement autour d'un barbecue un peu arrosé, on a refait le monde et on s'est dit on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes. Et du coup on a donné notre DEM quelques mois plus tard et on a construit on a créé la brasserie du Pays Flamand.
Donc chiche, vous avez pas fait que refaire le monde, enfin vous êtes pris au mot et vous y êtes allé.
Ouais, c'est ça. On avait vraiment, et puis on est très complémentaires avec Olivier. Donc on a chacun nos précarés, on va dire, et forcément moi je sais à peu près bien compter. Olivier est un très très bon technicien et la fermentation n'a aucun secret pour lui, donc en fin de compte il y avait quelque chose à faire. Et puis plutôt que de regarder notre vie passer et de se dire mais qu'est-ce que on se voyait pas aller plus loin dans nos carrières respectives, et il fallait qu'on donne du sens vraiment à cette vie professionnelle qui occupe majeure partie de notre journée.
Alors on avait un petit peu parlé de quête de sens dans le dernier épisode de la saison 1 avec Maxime Fouache, sans trivialiser du tout ton histoire. Donc il y a d'abord effectivement un constat, c'est cette quête de sens, c'est que tu faisais ce qu'on peut appeler communément un bullshit job, ou en tout cas un job qui ne te satisfaisait pas par rapport je dirais à ta relation à l'altérité, en tout cas avec ce que ça pouvait impliquer pour la vie réelle. Et donc tu t'es dit il faut que je fasse quelque chose de plus utile finalement.
Ouais, exactement. Alors après, de plus utile dans l'utilité, il y a des notions larges
et subjectives aussi parfois.
Et subjectives. Nous c'était on est aussi et avant tout des nordistes passionnés de bière. C'est un produit qui nous plaît beaucoup, qui représente aussi notre région, qui est un produit de terroir. Mm-hmm. On s'adresse à des agriculteurs, on s'adresse à des gens de la terre et aussi le projet d'entreprise d'avoir quelque chose qui est très ouvert sur l'humanité et donc avec un traitement des salariés qu'on voulait différent.
Bon, alors tu le sais, au-delà du lien commun qu'on a avec Hasbrouck et notre amour de la bière, on a aussi un autre lien commun, c'est que effectivement je me retrouve aussi beaucoup dans ton parcours. Moi aussi j'ai été banquier et moi aussi j'ai trouvé ça complètement avilissant et j'ai cherché à m'en dépatouiller. Tu es resté combien de temps du coup dans le milieu de la banque et tu y faisais quoi en particulier ?
Alors entre les stages de fin d'études et puis ma fin de carrière entre guillemets ma fin de carrière de banquier, il s'est passé une bonne dizaine d'années.
D'accord.
Comme je le disais sur deux enseignes différentes. Et en fait je m'occupais d'accompagner les entreprises notamment dans leur financement haut de bilan, donc pour potentiellement racheter d'autres entreprises et aussi sur l'investissement classique.
Ok, donc ça veut dire que tu étais déjà dans le monde de l'entreprise mais via ton activité précédente, quoi.
Oui, moi j'ai toujours, c'est un point commun d'ailleurs avec Olivier, c'est qu'on a toujours été attaché à l'entreprise. Je pense que c'est le berceau de beaucoup d'innovations, le berceau de beaucoup de bonnes idées. C'est de mettre après la stratégie est hyper importante, la manière dont on fait les choses est importante, mais l'entreprise reste effectivement quelque chose qui là pour le coup m'a toujours passionné. Et pour la petite histoire, je suis aussi fils de commerçant, donc j'ai vu mes parents beaucoup travailler et je pense que mon amour de l'entreprise vient de là.
Et du coup, quand même, alors sans chercher à comparer ou à faire une compétition de misérabilisme, ta carrière de banquier, et d'ailleurs contrairement à la mienne où moi j'étais en salle de marché dans les modèles mathématiques, donc où on était vraiment dans le l'abstrait quasi total, les produits dérivés, etc. T'avais quand même un lien avec l'économie réelle dans le sens où tu travaillais donc directement avec des entrepreneurs pour essayer de les financer. Est-ce que cette expérience finalement t'a servi pour fonder ta boîte?
Oui, parce qu'en fait je pense que j'ai vu trop d'entreprises prendre des risques aussi démesurés, ou alors prendre des décisions, enfin prendre voilà des stratégies qui n'étaient pas bonnes. Je les ai vues s'écrouler et je peux vous dire qu'en fait, enfin ce qui m'a vraiment perturbé moi dans mon métier, c'est qu'à un moment donné, c'est moi aussi qui appuyais sur le bouton pour rejeter le chèque ou l'effet de commerce qui débitait le compte en trop et avec tout l'impact que ça pouvait avoir derrière, à savoir une liquidation judiciaire, des licenciements, etc. Donc, c'est ça qui est très dur à porter, en fin de compte. Hein. C'était ce qui était le plus compliqué, de savoir être aligné aussi entre ce qu'on faisait et savoir ce que ça allait générer derrière. Donc ça, j'étais pas tout à fait tranquille avec ma conscience. C'est ça qui m'a vraiment fait changer de prisme, en fait.
On n'en a pas vraiment parlé, mais est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que fait ton partenaire Olivier dans cette aventure?
Eh ben écoute, Olivier est mon égal. On est les deux cofondateurs, les deux co-gérants. Si je caricature un peu, il y en a un qui a pris la partie commerciale et financière, c'est moi, et la partie production, investissement, machine. C'est lui. Voilà. Donc, si je caricature un peu, sachant que lui, c'est un ancien ingénieur. On est encore un d'ailleurs. C'est un ingénieur LISA, donc l'Institut supérieur d'agriculture de Lille.
Ok.
Il a eu un parcours effectivement dans la fermentation des vins, des cidres, etc. Il vendait des auxiliaires de production, tout ce qu'on n'a pas envie de dire dans une étiquette. Ouais. Et donc quelque part, c'est aussi un ras-le-bol de tout ça qui l'a mené à ce qu'on fait aujourd'hui.
Ok.
Voilà. Et donc on est en toute confiance puisqu'on est des amis de longue date. On s'est connus en sixième.
Ah oui. Je connais un peu. Ouais.
Ouais. Il y a des gens comme ça qui lancent une brasserie, d'autres qui lancent un podcast.
Hein, c'est ça. C'est ça.
Chacun son truc.
Et du coup, en quelques mots, alors on va rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui rend la brasserie du pays flamand si particulière?
Écoute, je pense que on a toujours on a toujours concentré nos efforts sur la qualité de la bière. C'est le produit avant tout. Le marketing, etc. Ça doit venir après. C'est le produit en lui-même et réalisé dans un cadre d'entreprise plutôt libéré. On en parlera peut-être un petit peu après sur le type de management. Mais on veut que les gens se sentent bien et soient aussi pourvoyeurs d'idées. Donc en fin de compte, on est sur une sorte de petit écosystème bien sympa où en fin de compte, on arrive à faire coexister des nouvelles idées sur un produit quand même plus que traditionnel, hein, et on n'en oublie pas d'ailleurs de consommer local dans nos appros, puisque les orges viennent des Hauts-de-France, les houblons en grande partie également. Donc voilà un peu l'ADN de la brasserie, et j'ai tendance à penser qu'on a un petit supplément d'âme par rapport aux autres brasseries, puisqu'en fait on va vraiment miser sur justement toutes ces valeurs. On s'appuie aussi sur une grosse communauté. Les gens nous aiment bien, et enfin d'ailleurs je suis toujours épaté et je les remercierai jamais assez, mais on voit qu'ils nous défendent sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils sont toujours très impliqués dans ce qu'on fait. Quand il y a un coup de main à donner, ils sont là. Là, avec le confinement, on a fait un drive. Ça a été un succès extraordinaire et un moment de partage incroyable. Donc, un peu l'ADN de la brasserie.
Voilà, donc, ce qui est important, c'est que certes, Olivier et toi-même avez décidé de quitter vos jobs après une soirée arrosée, un barbecue, mais pas juste pour fonder une brasserie. Il y a une démarche engagée derrière,
bien sûr, on
va revenir dans le détail. Merci Mathieu Le Sen. Avant de passer à la suite, il vous a manqué sur l'épisode précédent. Il est de retour. C'est le quiz de Roland. Bon Roland, qu'est-ce que tu nous as préparé ce mois-ci ?
Alors le quiz de ce mois-ci, ça va être un quiz sur la reconversion professionnelle.
Ah, Voilà. Je vois un lien.
Tu vois un lien, parfait, nickel. En plus, ça vous concerne tous les deux. Et les chiffres viennent d'une enquête d'opinion Doxa 2018. Ça va ?
Ok.
Donc on va faire, là, exceptionnellement, comme vous êtes que deux participants, on va faire un round de deux questions sur deux rounds, donc quatre questions. Ça va ?
Ça va.
Comme d'habitude, je rappelle un peu les règles.
C'est entre le juste prix et Damien Nord.
C'est ça. Ouais.
Donc je rappelle les règles. On doit se rapprocher.
On a les références qu'on mérite. Hein. Ouais.
On doit se rapprocher le plus proche de la réponse. Plus vous êtes proche, plus vous avez de points. Plus vous êtes loin, moins vous avez de points. Ça va ?
Parfait. Il n'y a rien à gagner.
Rien à gagner, comme d'habitude.
Donc rien à perdre.
Exactement. Rien à gagner, rien à perdre. Donc, comme veut la tradition, on va commencer par l'invité, Mathieu.
Ok.
Donc, première question. Quel est le pourcentage de Français qui souhaitent créer une entreprise ?
Je dirais 25%.
25% ?
Ce qui est à peu près le score de La République En Marche, du coup. Hein.
À peu près, ouais. Et bah, c'est pas loin. Parce que c'est 28%.
Wow. Startup Nation, en
plus. Startup Nation. Donc, du coup, ça fait déjà 3 points pour Mathieu.
Ok.
Bravo.
Merci.
Pour info, le chiffre est forcément un peu plus élevé chez les jeunes. Donc, chez les moins de 25 ans, surtout toujours dans la même enquête, c'est 47%.
Est-ce que tu veux rester chez toi ou gagner ta vie ?
Ça veut dire que chez les jeunes, aujourd'hui, il y a à peu près la moitié d'entre eux qui souhaiterait créer une entreprise.
Si je peux intervenir, moi je suis épaté par les stagiaires, donc plutôt des public jeunes, qui effectivement ont déjà un projet d'entreprise. Je suis épaté. Enfin là sur ces dernières années, c'est assez probant.
Ouais, mais ça, on le voit un peu partout, quoi. Ça se voit un peu dans toutes les enquêtes qu'on fait et dans tous les différents stades qu'on a derrière.
Tu pourras lancer bientôt ton incubateur, peut-être, Mathieu.
Bah écoute, tu crois pas si bien dire.
Les jeunes poussent.
J'aimerais beaucoup.
Grosse annonce en exclu. Exclu rue de la Révolution.
Non, il y a des gens qui font ça très très bien, mais justement, quand on parle de développement et c'est de donner la chance à des jeunes qui s'intéresseraient de près ou de loin à notre écosystème, en fait. Hein.
Ouais, et puis ça peut être aussi une belle manière de dynamiser une région, qui est aussi un peu ta démarche.
Tout à fait.
Deuxième question pour Mickaël. Quel est le pourcentage de Bac plus 5 qui change de cap professionnel après 2 ans ? Et par changer de cap...
Après 2 ans ?
Ouais.
Mais ça veut dire après 2 ans, donc à pile 2 ans, ou ça peut être genre après 10 ans, du coup ?
Non, après 2 ans, dans le sens où c'est entre 0 et 2 ans, quoi. Parce que je veux dire, c'est dans le gap des premières années, ils décident de changer de cap professionnel.
Ah oui,
et changer
tôt,
de cap de
commencer
professionnel.
Vraiment tôt, quoi.
Ouais. Tôt. Changer de cap professionnel, je veux être très précis, c'est pas changer de boulot, c'est changer de cap professionnel dans le sens où je suis ingénieur et je décide de plaquer et je fais de la pêche de crevettes. Ouais.
Parce que tu vois, autour de cette table, par exemple, voilà. On est 2 sur 3 dans ce cas-là, mais c'est pas après 2 ans. Nous, on a une dizaine d'années à le faire. Donc, j'aurais tendance à penser que c'est relativement faible. Je vais dire 18%.
C'est 14%.
Ah.
Bravo.
Pas loin.
C'est pas très loin. Et le problème, c'est que ça te fait qu'un point parce que c'est après 17,50. Tu connais les règles, hein. C'est plus, moins 25, plus ou moins 50%. Et comme c'est un petit chiffre.
Non, mais tout est bon pour faire gagner l'invité.
Ok.
Même s'il est pas là, donc il faut que je fasse un peu de mauvaise foi.
Exactement, bah bien sûr. C'est un peu les règles de ce quiz. C'est pour ça que tout le monde le réclame.
Tout le monde aura noté que j'étais pas loin.
Mais t'étais pas loin. Mais t'étais un peu trop loin. Donc, troisième question, Mathieu. Quelle est la proportion de Français qui se sentent plus épanouis après leur reconversion ?
Oh bah forcément 90%, je pense.
Tu penses que c'est au moins 90%?
Ouais.
Et bah, désolé de
t'apprendre. Ça paraît optimiste quand même, ouais.
Ouais, mais c'est complètement optimiste parce qu'en fait, la réponse est 45%.
Ah, d'accord.
Donc, la moitié d'entre eux.
Beaucoup de déçus.
Il y a beaucoup de déçus parce que, en fait, je pense qu'aussi dans l'enquête d'opinion, faut pas oublier qu'il y a des gens qui essayent la reconversion et qui n'y arrivent pas. Et donc, du coup, je pense que dans tous les déçus, ils sont un peu plus de 10%. Et donc, du coup, ça fait 45%.
Bon, mais toi, tu fais partie des 45%.
Mais toi, tu fais.
Ouais, voilà. Clairement. Très clairement.
Ça marche. Donc, du coup, ça te fait quand même un point pour Mathieu.
Grosse punition, là, non, en termes de points.
Oui, mais
je pense que Mickaël va réussir à rattraper ça.
Pas sûr.
Ah, en même temps, il n'y a rien à gagner. Mais s'il y a de la nostalgie à gagner, là, je vais jouer ma vie. Hein.
Donc, dernière question pour Mickaël. Quel est le pourcentage de Français satisfaits de leurs conditions de travail ?
Je suis tenté de repenser, de redire 18%, mais non, il doit y avoir un peu plus que ça. Allez, 31%.
Ouais. Et bah, j'ai l'honneur de dire que c'est Mathieu qui a gagné ce quiz, parce que la bonne réponse est 67%.
Oh purée,
ah, c'est, oui. bien, c'est bien.
Donc il y a beaucoup de menteurs chez les Français, a priori. Ouais.
Mais, mais surtout que le Français étant quand même d'une nature pessimiste, je suis étonné d'entendre que 2 sur 3...
Ouais. Mais peut-être qu'en fait,
tant mieux.
La majorité des Français qui répondent à cette enquête d'opinion ont peut-être peur de se faire identifier par leur employeur et du coup répondent peut-être qu'ils sont satisfaits de leurs conditions de travail, je ne sais pas. Donc du coup, ça te fait qu'un point, et donc du coup, c'est Mathieu qui gagne ce quiz.
Bravo Mathieu.
Merci, merci, écoute... Que d'honneur.
Et tu n'as absolument rien gagné.
Si, en fait, il s'avère que j'ai un petit truc, mais je vais le garder pour la fin de l'émission.
Ah, ok. Bon, bon, moi aussi, j'ai un petit truc.
Ah hein, oui, c'est vrai.
C'est en liquide. Hein. Qui mousse. Je tiens à préciser.
Il se pourrait que moi aussi. Mathieu Le Sen, brasserie du Pays Flamand, tu nous as un petit peu décrit quelques aspects de la démarche un peu engagée que tu cherches à entreprendre avec ta brasserie, mais finalement, comment tu définirais le type d'entreprise que tu as ?
C'est une très bonne question. Moi, je m'appuie sur quelques lectures que j'ai pu avoir. Je pense à Génération Z ou l'entreprise libérée. Donc, c'est de dire on laisse vraiment les énergies des salariés émaner et produire quelque chose. Ça nous a toujours réussi. Et je dirais qu'il y a quelques années, quand on commençait juste à parler du RSE, donc la responsabilité sociétale et environnementale, je me suis vachement retrouvé là-dedans. Sans savoir que je faisais du RSE en fait. Donc, Olivier a exactement le même avis, c'est que je pense que le RSE c'est devenu un concept. Je pense que nous on l'avait en nous en fait avant que ça apparaisse quelque part. Donc ça veut dire prendre soin de ses salariés, réfléchir quand on agit sur un investissement s'il a un impact sur la nature, mener des actions aussi dans ce sens-là. Anecdotique ou pas, voilà un peu l'esprit.
Mais c'est-à-dire que dans les actions que tu veux mener, entre guillemets, dans l'environnement autour de vous,
oui.
Ça veut dire que quelque part, il faut aussi une implication des employés sur ça, on est d'accord ?
On est d'accord, on est d'accord. C'est indispensable.
Ouais, c'est-à-dire que dans le choix des collaborateurs, faut que vous choisissiez, entre guillemets, des gens qui soient dans le même état d'esprit de vous de développement d'entreprise, et c'est très important parce qu'en fait, eux derrière, il faut qu'ils soient acteurs eux-mêmes de ce changement-là. Quoi.
Tout à fait. Et ça c'est très clair. Et d'ailleurs, et c'est pas donné à tout le monde en fin de compte, hein, puisque globalement, on donne beaucoup d'autonomie et d'indépendance à nos salariés. On essaie de pas trop mettre de cadre.
Ouais.
Je
m'en prie, ouais.
Et de l'encadrement, mais disons même pas trop en fait d'ailleurs, hein, puisque on a un organigramme hiérarchique qui est assez simple et qui est plutôt rond plutôt que d'être par étage. Et par contre, ça marche pas tout le temps et il faut pas croire que il y a pas de licenciement chez nous. Il y a pas, enfin c'est même rarement des licenciements. C'est plutôt des, on se met autour d'une table en se disant écoute, ça va pas, t'es pas dans le mood quelque part. Donc ça marche pas à tous les coups non plus.
Ouais, je comprends.
Et avoir cette démarche salutaire, est-ce que c'est rentable finalement ? Est-ce que tu arrives à tenir en essayant de faire autant d'efforts par rapport aussi à la concurrence ? Est-ce que ce business model tient la route ?
Mais bien sûr, plus que jamais, je pense, notamment parce que je pense que nos consommateurs finaux deviennent de plus en plus des consommateurs. Ils se renseignent sur ce qu'ils consomment et du coup, ils sont aussi prêts à se dire c'est un petit peu plus cher. Alors, il faut pas être trop cher parce que, je souhaite pas que mes bières deviennent des produits élitistes. Je veux que ça soit un produit convivial et démocratique. Et du coup, c'est de se dire, c'est quand même un peu plus cher que l'autre, mais je sais que je mets pas mon argent n'importe où quelque part. Voilà. Donc, en fin de compte, bien sûr que le modèle fonctionne.
Alors, on évoquait en antenne le fait que pour beaucoup d'entreprises, finalement, l'objectif aussi, où la rentabilité passe par le fait de croître, de grossir. Bon, tu as effectivement, sur les 10 dernières années, fait grossir ta boîte. Tu avais un site à Blaringhem, là où tu as commencé. Aujourd'hui, tu as un deuxième site à Merville. Tu emploies une trentaine de personnes. Mais tu me dis avoir atteint une espèce de plateau. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'avoir un modèle de développement horizontal où il faut toujours être plus gros et toujours faire plus de croissance, tu cherches maintenant à atteindre un plateau plutôt pour faire de l'économie plus horizontale et éventuellement te diversifier ou faire un petit peu plus de démarches d'économie circulaire plutôt que d'économie linéaire. Donc, ma question, c'est d'une part, quels sont ces différents aspects qui rendent ton modèle plus horizontal que vertical et son corollaire, est-ce qu'il est possible de survivre sans grossir aujourd'hui ?
Alors, je pense que c'est dans les gènes d'une entreprise de devoir grossir. Une entreprise qui ne croit pas est une entreprise qui est appelée parfois à mourir. Et en même temps, je vous parlais de mon expérience de banquier. On a vu aussi des gens mourir parce que ils n'avaient pas anticipé des grands changements, de prisme. Hein, et on voit bien même cette année que le coronavirus transforme fondamentalement certaines choses. Donc, il faut l'anticiper. Et nous, avec Olivier, on s'est posé souvent la question, c'est mais jusqu'où on s'arrête quoi ? Parce que là, globalement, il n'y a pas de signaux qui nous diraient on va ralentir. Mais si on va trop loin et si on croit trop, je pense que on dépassera des seuils psychologiques qu'on ne veut pas franchir. En fin de compte, qui sont antinomiques avec nos valeurs. Et donc, du coup, c'est de dire, un peu, alors c'est un mot qu'il faut plus trop dire, mais parce qu'il est plus à la mode, mais de créer des clusters comme ça de compétences autour de la bière, parce que ça reste un métier extraordinaire et passionnant. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire. Hein, je vous parlais effectivement du traitement. Traitement de nos déchets, notre biomasse, par exemple, ça génère de l'activité rentable. Puisqu'on va vendre des drèches, on va économiser dans les rejets d'eau. Donc ça, voilà, ça c'est si on investit là-dedans, c'est un métier de merde.
Parlons-en peut-être rapidement de cet exemple précis. Donc parce qu'on l'a évoqué en antenne, mais pour nos auditeurs, le principe c'est que l'essentiel de l'énergie que tu consommes ici, donc c'est du gaz. Hein, tu vas devoir chauffer des cuves, etc. Oui. Mais en fait, tous les déchets, donc la drèche en particulier, donc en fait ça consiste en fait tes levures mortes, ton malt, ton houblon, etc. Tout ça va générer donc du méthane. Et donc, en fait, tu mets un point d'honneur, en fait, à récolter tous ces déchets-là pour que ces déchets-là puissent produire du méthane qui va ensuite, du coup, réalimenter le système.
Exactement. Donc, c'est circulaire, c'est tripartite avec un, donc, on a créé ça avec un agriculteur local, éleveur, hein, c'est parti il était intéressé par nos drèches. Nos drèches étant une alimentation animale tout à fait performante et donc intéressante pour lui. Mais en fin de compte, globalement, on commence à produire peut-être un peu trop de drèches. Et donc, en plus des drèches, il y avait aussi toute cette biomasse, donc les résidus de houblon et les résidus de levure, qui peuvent créer de l'énergie. Et donc, cet agriculteur, à côté de sa ferme, a créé un méthaniseur dans lequel il va bien sûr mettre les déchets verts des communes environnantes, mais aussi du coup nos résidus les restes de drèches et les restes de biomasse qui étaient jusqu'à présent donc là la biomasse résidus de houblon et levure étaient jusqu'à présent rejetés dans les réseaux d'assainissement. Cela nous coûtait assez cher.
Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était comment, en fait, en termes de gestion d'entreprise, on arrive à se dire, cette partie-là, on va la transformer pour qu'elle soit rentable et qu'elle puisse, entre guillemets, être un bienfait derrière dans la société.
Alors, bon, d'abord, faut avoir une appétence pour ça. Hein. Faut penser développement durable. Olivier et moi, c'est vraiment quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Donc forcément, il faut déjà se mettre en marche par rapport à ça. Et après, en fin de compte...
Attention, se mettre en marche, c'est interdit, Rue de la Révolution.
Ouais. Ah bon,
bon alors, c'est des mots magnifiques.
Pour le coup, c'est pas poétique. Et se mettre en mouvement, alors, voilà. Dans ce cas-là, ça va aussi par rapport à ça. Et en fin de compte, c'est de voir que globalement... au début, c'est compliqué parce que tout ça dépense énormément de capitaux. Construire une microstation, ça nécessite des capitaux. Mettre une cuve de récupération, ça nécessite des capitaux. Et c'est des capitaux qui ne sont pas productifs en tant que tels. C'est pas comme un fermenteur, je mets de la bière, je vends la bière, basta.
Ouais.
Je caricature un peu, mais sur ces cuves extérieures, enfin quand on pense justement récupération de ces déchets biomasse, ça nécessite un engagement. Mais par contre, on se rend vite compte que globalement, ça va vite être rentable puisque je vais éviter des dépenses inutiles auprès de mon exploitant d'assainissement et qu'en plus, potentiellement, je vais peut-être même pouvoir vendre au méthaniseur mes résidus.
Okay. Voilà. Mais alors, du coup, c'est vraiment une démarche militante ou c'est juste un moyen d'être rentable ?
Non, c'est clairement d'abord militant et après ça rend pérenne les choses et ça nous donne envie aussi d'aller plus loin, hein, c'est-à-dire c'est rentable, donc ça nous permet aussi de nous consacrer à d'autres sujets, hein. Je pense par exemple on a un projet d'extension, on n'avait pas les moyens de le faire quand on s'est établi ici à Merville sur le premier bâtiment, mais sur cette extension c'est obligatoire, il y aura beaucoup de panneaux solaires par exemple. Mmh. Hein, c'est pareil, c'est un investissement qui n'est pas productif immédiatement, mais sur le très long terme, c'est bénéfique écologiquement. Alors après, voilà, il y a des débats sur le panneau solaire en lui-même, mais en tout cas, moi, je veux décarboner mon activité.
Tu as des difficultés pour trouver des financements sur ce genre de projet ou les banquiers, quand même, ont aussi un peu changé leurs états d'esprit?
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, justement, on a mis la caisse sur la table pour le développement suite au coronavirus. Aujourd'hui, il y a des établissements comme la Banque publique d'investissement qui ont des produits bancaires qui sont tout à fait adaptés à ça, quoi. Voilà. Et puis je pense qu'on pourra aussi récupérer peut-être quelques subventions là-dessus. Voilà. Je pense qu'il y a les choses bougent et on voit bien de toute façon que les programmes de subventions sont toujours orientés développement durable maintenant.
Donc on l'a vu avec les différentes dimensions que tu cherches à explorer au-delà de la simple production de bière. Tu es un entrepreneur engagé. Est-ce que ça veut dire que le consommateur d'Anosteke est finalement un consommateur citoyen ?
Moi, je pense parce que par le biais, encore une fois, des réseaux sociaux, mais on le voit aussi parce que, par exemple, on a, nous, toujours cette volonté forte de rencontrer notre client final. C'est pour ça qu'on ouvre ici une salle de dégustation, une tap room, voilà, qui fait le plein tous les jeudis et le vendredi soir, parce que justement, on a ce lien direct avec le consommateur. Et on sent bien il est en recherche aussi de sens et on sent bien aussi qu'il nous challenge. Mmh. Je prends l'exemple type qui est en plein dans l'actualité, c'est moi je suis surpris que la brasserie du Pays Flamand ne récupère pas les bouteilles
comme des consignes.
Voilà. Mmh. Donc ça c'est un vrai sujet et régulièrement on a nos clients, nos internautes, nos followers qui nous disent mais pourquoi vous ne faites pas ça? Mmh. Donc, je dois leur donner une réponse là-dessus. Enfin, même si j'ai un avis, même si je dois creuser, et du coup, ça me challenge énormément. Et je suis sûr qu'on arrivera à répondre aussi à cette problématique-là, par exemple.
Mmh. Voilà. Après, c'est vrai que il y a ce que tu fais et ce que tu ne fais pas ou ce que tu ne fais pas encore. Hein, on peut toujours plus. Donc, tu évoquais par exemple les bouteilles. Dans ce que tu fais, il y a une démarche très locale. Tu fais appel donc à des producteurs locaux. Tu t'es installé sur des friches qui permettent aussi de réhabiliter certains territoires qui ont une histoire. Alors, par exemple, pourquoi t'es pas passé au bio, par exemple? Dans les choses que tu ne fais pas.
Oui, donc ça, c'est des vrais sujets. Je ne suis pas passé au bio parce qu'aujourd'hui, je privilégie d'abord les appros locaux et qu'aujourd'hui, les filières bio sont pas encore... c'est en train de bouger. Mmh. Hein, c'est-à-dire que jusqu'à présent, trouver du malt bio local, c'était compliqué. Ouais. Trouver du houblon bio local, c'était compliqué. Mmh. Et moi, j'ai toujours... Enfin, avec Olivier, on aime bien, nous... Voilà, on a le sens un peu paysan et on aime bien parler avec les paysans locaux. Mmh. Ils nous expliquent que c'est un peu compliqué de faire de l'orge bio parce que il paraît qu'il pleut beaucoup dans les Hauts-de-France. Je comprends pas. Mais,
même rumeur à Bruxelles. Ouais. On comprend pas.
Je ne comprends pas. C'est d'être dans le réel. Et par contre, ça bouge. Donc notre malteur commence à nous dire bah oui, mais je commence à avoir quand même des quantités correctes avec des bonnes orges bio, donc pourquoi pas? Et effectivement, pourquoi pas? Allons-y, explorons.
En fait, voilà. T'as deux problématiques. T'as une problématique en fait de vouloir en fait toujours faire un aspect local.
C'est ça.
Normal avec, avec entre guillemets la marque que vous avez, les marques que vous avez. Et derrière, les agriculteurs locaux, ils savent pas produire assez de volume pour oui. Pour votre production quoi.
C'est ça. Ouais. Et bon alors bon le forcément c'est plein de paradoxes mais aujourd'hui je pourrais faire du bio mais tout serait importé
Oui, ça pas beaucoup de sens d'après derrière sûr, après soit, les produits et enfin même la brasserie du pays flamand c'est compliqué qu'elle importe des produits qui viennent de l'autre bout de l'Europe.
Ce que tu gagnes en bio, tu le perds sur le local. Ouais,
c'est
fait.
Ça, même si bon bah pareil enfin je vous en ai parlé tout à l'heure mais c'est vrai que le houblon quand il vient des US des États-Unis parce que c'est des houblons hyper aromatiques qui donnent vraiment une valeur ajoutée au produit. Bon, bah, c'est un peu notre paradoxe. On se dit, bah, c'est quand même dommage de devoir aller si loin pour trouver des pépites. Ouais. Et c'est aussi d'encourager les locaux, les houblonniers locaux, à peut-être faire de la recherche variétale, à avoir cette notion de filière, quoi. Voilà.
Et tu as ce genre de dialogue éventuellement avec tes producteurs, les agriculteurs, peut-être pour aussi chercher de nouvelles variétés.
Bien sûr, ça c'est et puis surtout qu'en fait on est confronté aussi, enfin entre guillemets c'est pas une confrontation parce que c'est quand même plutôt favorable, mais on est sur des générations de néo houblonniers qui ont aussi leurs idées bien arrêtées et qui ont plein de bonnes idées quoi. Donc on n'est plus dans l'agriculture d'il y a 50 ans où il fallait absolument, enfin voilà, c'était un peu le semencier, c'était le qui disait exactement ce qu'il fallait faire. Là aujourd'hui, je trouve que la nouvelle génération d'agriculteurs est très engagée aussi et en quête de sens de là-dessus aussi.
C'est très rassurant et ça nous fait un magnifique teaser pour le prochain épisode, mais vous en verrez plus le mois prochain. on a beaucoup parlé des choses que tu as fait pour cette brasserie et ce qui la rend particulière. Et ce qui, du coup, a un impact, évidemment, direct ou indirect sur la communauté locale, bien sûr. Mais tu as aussi une démarche un peu, je dirais, c'est peut-être pas le bon mot, mais redistributive, dans le sens où tu t'engages aussi avec les acteurs locaux, avec des associations, pour des événements, plantaison d'arbres, notamment, où tu me décrivais aussi un autre projet sur lequel tu travailles. Peut-être que tu peux en parler quelques minutes.
Ouais, bah là, par exemple, effectivement, c'est de se dire, si je plante des arbres, je vais pas mettre des palmiers ou des sapins ou que sais-je, je vais essayer de trouver des essences locales. Bon, il se trouve qu'on a quand même un tissu associatif là-dessus qui est très très complet ici dans les Hauts-de-France. Je pense au Jardin du Cygne par exemple alors je sais pas, enfin voilà, ils font de la culture de plants d'arbres. C'est naturellement qu'on va aller vers eux. Enfin, si on peut les aider, si on peut, alors ils nous aident, on les aide. Enfin, il y a aussi un écosystème comme ça qui se crée avec eux, et ça c'est super. Ouais, on essaie toujours d'avoir un lien. Voilà, bon, pendant le confinement, on voulait aussi donner une partie de nos, on voulait aussi agir. Enfin voilà, on se sentait un peu inutile par rapport aux soignants, etc. Bah, c'est de se dire, bah, comment je peux aider. Donc voilà, c'est toujours d'essayer. D'aller un peu plus loin que simplement de faire de la bière, quoi. Bah voilà, et puis c'est aussi de s'inclure dans la ville, hein, une ville où bah il se passe pas forcément grand chose, mais c'est de créer par exemple des nouveaux lieux. Alors
tu nous parlais de la notion de tiers-lieu.
Exactement. Ben, un tiers-lieu, c'est des lieux un petit peu alternatifs où on va unir l'entreprise, mais aussi ça doit être un lieu démocratique, un peu comme un comptoir d'un bar, on refait le monde. Ben, je pense que donc du coup c'est un bon support d'utiliser ça, mais c'est aussi peut-être d'y joindre l'art. Donc là l'idée c'est éventuellement effectivement d'avoir une œuvre d'art ouverte à tous en extérieur. Alors ça peut être une cabane, ça peut être un forum, enfin ça peut être plein de choses qu'on a en tête là et qui permettrait en lien avec la véloroute qui se termine juste derrière chez nous, donc de faire venir les gens pour sur un lieu vraiment alternatif quoi. Voilà, avec forcément nous notre idée c'est de faire de la bière et des boissons autres sans alcool. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, c'est aussi de faire venir des food trucks avec de la bonne alimentation. Hein. On parle du slow tourisme. C'est des choses qu'on aime bien.
Donc en fait, c'est une espèce de place de village, entre guillemets.
Exactement.
Mais décalé dans un endroit où...
C'est tout à fait ça.
D'accord.
C'est tout à fait ça. Okay. Voilà, exactement. Et donc, et dont le fil de directeur est quand même ce produit traditionnel qu'est la bière.
D'accord. Ok, bah, je pense que ça fera venir beaucoup de gens du coup.
Le houblon fait la force. C'est pas vous ça?
Si. Alors bon, c'est en lien avec l'union fait la force, je crois.
Bien sûr.
Enfin, vous connaissez ça, les Belges.
Oui, on connaît en théorie, en pratique, en théorie, ça marche moins bien.
C'est ça.
Mais oui.
Donc on a détourné ça en parlant effectivement, puisque le houblon pour nous est très important. C'est une plante qu'on adore. Il y a un champ de possibilités infinies et donc voilà. Donc le houblon fait la force, c'est notre devise d'entreprise.
Du coup, l'idée, en fait, c'est que toi, tu as un business model qui n'est pas forcément habituel dans ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie. Et donc, du coup, c'est quoi un peu, entre guillemets, la recette aujourd'hui pour avoir un business model qui intègre l'écologie et un modèle qui n'est pas nécessairement, placé sous le signe de la croissance infinie?
Ok. Bah alors, si on descend, excusez-moi, je vais faire un peu de comptabilité, pas de mais problème. Si on descend les soldes intermédiaires de gestion, ça se calcule déjà dès le chiffre d'affaires, c'est de dire, je fais attention de pas faire trop de promos, je préserve mes marges pour que derrière je puisse descendre, me permettre de bien payer mes salariés, d'avoir suffisamment de marge pour pouvoir investir dans des cuves qui vont récupérer les déchets ou demain construire du solaire. C'est aussi avoir suffisamment de marge que si je dois laver mes bouteilles, je puisse le faire, etc. Donc c'est vraiment de préserver, c'est de la préservation de marge, mais pas pour s'en mettre plein les poches et s'acheter une grosse voiture. C'est redistribuer le plus possible, de dire on est peut-être bête, mais on joue que la fidélité nous sur nos appros. C'est rare qu'on renégocie les prix, etc. Je pense qu'on achète parfois trop cher, mais en tout cas, c'est aussi gage de sécurité, d'entente. On s'attache beaucoup à nos interlocuteurs.
Oui.
Si ça matche avec l'interlocuteur, globalement, on fait confiance. Et puis, voilà. Tout ça, ça génère de la confiance et du coup, du sens. Et ça nous laisse aussi la possibilité d'explorer des nouvelles pistes.
Ça marche. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les jeunes entrepreneurs, ça reste quand même une gestion, entre guillemets, en bon père de famille, comme on dit
bien sûr,
dans le milieu. Mais derrière, il y a quand même une logique, plus globale sur la sécurité des approvisionnements et sur ce qu'on peut faire en termes d'action derrière. Quoi.
Exactement.
Bien, ce sera le mot de la fin. Mathieu Le Seyne, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour ton temps, pour ton accueil et pour cette bière. Je t'avais promis une petite surprise ou un petit cadeau, c'est pas grand chose, puisque tu as gagné le quiz. Alors, comme on le disait avec Roland, c'est vrai qu'une de nos bières préférées absolues, c'est la Nosteke, bien sûr. Mais une autre de nos bières préférées de la brasserie de la Seyne.
Ouais, très bien, on connaît bien.
À Bruxelles, donc, plus local, qui est la Jambe de Bois. Et qui était aussi d'ailleurs une des raisons, je pense, d'ailleurs, rue de la Révolution, puisque Jambe de Bois était donc une figure emblématique de la Révolution belge. Mais on y reviendra peut-être dans un autre épisode. Mais bref, je voulais te faire goûter cette petite
Merci.
Spécialité bruxelloise si tu ne la connais pas déjà.
Mais je la connais et je l'apprécie beaucoup. Et on suit la brasserie de la Seyne avec beaucoup d'intérêt, puisqu'on a des points communs, je pense.
Et si du coup on pouvait vous encourager à des matchmakers et vous faire une collab, nous on serait ravis.
Pourquoi pas, on lance un appel.
On va le relayer, il n'y a pas de problème.
Ce sera fait. Bien, Mathieu Le Seyne, brasserie du Pays Flamand, merci beaucoup. On vous encourage avec modération, évidemment, de vous intéresser un petit peu à tes productions, à cette bière que nous, encore une fois, voilà, on apprécie beaucoup. Pour nos auditeurs, une petite surprise, c'est qu'il va y avoir aussi un petit épisode hors série avec Mathieu Le Seyne, donc plus spécifiquement sur la fabrication de la bière. C'est aussi une des autres surprises qu'on vous avait promis sur cette saison 2. Donc il y aura entre chaque épisode canonique mensuel des petits épisodes par-ci par-là. Et donc là, on en aura un donc, sur la fabrication de la bière. Et là-dessus, voilà, je vous remercie chaleureusement. Mathieu, merci. Roland, merci.
Merci.
Merci à vous. Merci, bien sûr, nos auditeurs pour leur fidélité. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, évidemment, à relayer et à parler du podcast autour de vous. N'hésitez pas également à soutenir le Patreon de Fastkill qui rend ce podcast audible et qu'on remercie aussi chaleureusement. Merci à tous et à la prochaine.
Un podcast signé Fastkill. Fastkill.com.
Vous êtes fan des années 80? Le son des 80s vous manque? J'ai ce qu'il vous faut. 12 pouces, c'est une mixtape de 2 x 45 minutes où je vous propose de redécouvrir les maxi 45 tours emblématiques de l'époque, le tout accompagné d'anecdotes. Une fois par mois, embarquez pour un trip nostalgique dans le son merveilleux des 80s. Pouces, c'est tous les mois sur 12pouces.fastkill.com. Morceau choisi, c'est votre rendez-vous hebdomadaire musical, une demi-heure de musique sélectionnée avec amour et en toute subjectivité dans ma collection personnelle. Tous les lundis matins dès 7h, je vous propose d'attaquer la semaine avec du bon son et un minimum de blabla. Morceau choisi, c'est sur mc.fastkill.com.